Et on va relire pour cela Éphésiens chapitre 3. Donc je rappelle le contexte, je vous parle de l'attitude un petit peu des pharisiens, des gens comme Jonas, et aussi de l'appel de Dieu. C'est-à-dire que Dieu veut se glorifier dans notre vie, et parfois on ne comprend pas bien la nature de notre appel, et aussi la manière dont on doit marcher avec Dieu et obéir à sa volonté. Et on a vu, à travers différents exemples, que les pharisiens étaient passés à côté de la venue du Messie, et que Jonas passait à côté d'une œuvre de rédemption qui voulait opérer dans des cœurs mauvais, et d'ailleurs qu'il a accompli, puisque Ninive s'est converti. Et on voit que Dieu, non seulement a une capacité d'aimer, de gracier, d'exercer la miséricorde qui est sans commune mesure avec la nôtre, mais aussi qu'il a la capacité de le faire. Il a la volonté, mais la capacité de le faire, de changer les cœurs par un moyen qui n'est pas la torture, qui est une forme de menace, parce que il peut y avoir un jugement qui va venir, comme l'enfer est une menace. Mais il peut le faire par la conviction qui est liée à la parole de Dieu. Parce que on peut menacer les gens et puis se dire, ça n'arrivera pas, c'est pas vrai, c'est des histoires, vous faites peur aux gens, etc. Non, mais la parole de Dieu est capable de transformer les cœurs, au point même de transformer les cœurs des Ninivites. C'est pour ça que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand la parole est communiquée, la vraie parole, ça doit être une priorité dans notre vie. On n'a pas idée. J'ai envie de vous raconter cette anecdote. Je la raconte plusieurs fois. Je la raconte de temps en temps, mais c'est vraiment intéressant. Ça m'a parlé. Je vous ai parlé de la période où j'étais en Afrique hier soir, et puis, mais au milieu de ça, quelqu'un m'avait payé le billet pour aller à la conférence à Baltimore. Et donc, fin juin, début juillet, je suis parti, malgré le peu de moyens que j'avais. C'est fou parce que j'avais 500 francs par mois, en francs français à l'époque, pour vivre. Et j'ai dépensé en deux jours 500 francs pour aller à une conférence. C'était un peu... Non, le billet m'avait été payé, mais j'ai dépensé 500 francs de taxi à New York pour pouvoir changer à 5 heures du matin de l'aéroport à la gare. Donc, c'est-à-dire, on peut pas compter avec Dieu de façon... C'est pas en base 10, parce que... Vous vivez un mois avec une somme, et là, vous travaillez. Alors, c'était joli, New York, le lever du soleil, enfin, c'était 500 francs quand même, c'était cher. Et je suis allé donc à cette conférence, mais j'avais pas un rond. Et à l'époque, il y avait la conférence qui était organisée de telle façon, vous aviez des prédications dans la salle de culte, et puis vous aviez à la cafétéria, le midi et le soir, des temps questions-réponses avec Pasteur Sivos, mais pour rentrer dans la cafétéria, il fallait manger. Et moi, j'avais pas pris le pass nourriture et tout ça, j'ai pas d'argent. Mais par la foi, parce que j'avais vraiment envie de manger, quoi, je m'approchais et j'attendais. D'ailleurs, les gens à la porte, ils rigolaient quand ils voyaient arriver, parce que je vous jure que c'est vrai, toute la semaine, je suis rentré. J'étais là et je m'attendais à Dieu. Et il y a toujours eu quelque chose qui se passe. Alors, peut-être je faisais pitié, j'en sais rien. J'étais là. Une fois, ça a été mon pasteur qui passe et qui me dit « Tiens, rentre avec moi. » Je l'ai suivi. Une autre fois, c'est quelqu'un qui m'a laissé un billet. Une autre fois, c'est même le gars à la porte qui m'a dit « Allez, vas-y, rentre. » Une fois, Pasteur Simon, il sort de la voiture, les gens autour de lui, il me voit, il me prend par la main, il me tire. Mais j'ai assisté à tous les temps de questions d'épouse. Et c'est vrai parce qu'on était fiancés avec mon épouse, ma future épouse, et elle n'avait pas trop d'argent non plus, et elle commençait à vivre ce que c'est que la bénédiction par association. Mais elle était un peu frustrée quand même, parce que c'était toujours à travers moi, vous savez. Et donc comme elle était là, elle en profitait aussi. Mais tout ça pour vous dire, c'est que si j'avais pas fait pied de grue à cet endroit-là, parce qu'il y avait la parole de Dieu, j'aurais pas bénéficié de cette, faveur de cette souveraineté de Dieu, de cette gloire de Dieu, de cette fidélité de Dieu. J'aurais pu bouder dans mon coin, dans je suis pour missionnaire, personne pense à moi, etc. Et alors que Dieu était fidèle quand même, mais j'aurais pas expérimenté la fidélité de Dieu. Alors que là, je m'attendais à la fidélité de Dieu. Et Dieu a pourvu. Je dis pas que ça se passe toujours comme ça, là c'est vraiment la totale. Mais tout ça pour vous dire, c'est que plus on présente devant Dieu une coupe qui est grande, plus il peut la remplir. Vous voyez, la puissance de Dieu, elle est liée à notre foi dans sa capacité à nous remplir. Si on y est avec un dé à coudre, il peut le remplir le dé à coudre. Mais on va le boire et on a encore soif. Vous voyez, mais si on présente un bol ou une bassine, une baignoire, une piscine, voilà, on est rassasié. C'est la même fidélité, mais nous, on limite parfois la puissance de Dieu. Donc, tout ça pour vous dire que on n'a pas idée de ce que la miséricorde de Dieu peut faire, on n'a pas idée aussi de la puissance qu'il peut mettre en œuvre pour que sa miséricorde se déverse. Voyez. Et donc en Éphésiens chapitre 3, versets 3 à 7, il est dit, c'est Paul qui écrit, « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. » Vous voyez, c'est un mystère. Alors je rappelle le mot mystère, en grec c'est mysterion, c'est-à-dire que c'est pas une énigme ou quelque chose de compliqué à comprendre. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché dans la langue grecque. Donc l'Église, c'était un mystère caché de tout temps. C'était prévu, c'est pas compliqué l'Église, mais c'était un mystère. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, vous pouvez pas deviner qu'un jour il va y avoir l'Église. C'est un mystère. Et donc, ce mystère caché de tout temps, Paul en a eu la révélation. Plus que les apôtres, les autres ont eu, je dirais, les prémices, mais Jésus parle très peu de l'Église. Il dit « Je bâtirai mon Église », il parle d'assemblée, mais il explique pas comment elle va être organisée, comment nommer des anciens, enfin il dit rien Jésus sur l'Église. Donc et les apôtres non plus d'ailleurs, les autres, c'est Paul qui va recevoir cette révélation-là. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ, c'est-à-dire, et donc il est intelligent pourquoi ? Pas parce qu'il est plus intelligent que les autres, il est intelligent parce qu'il a la révélation du mystère. C'est ça qui rend intelligent. Ce sont pas des capacités naturelles, c'est la révélation de Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un qui est, je sais pas moi, simple d'esprit, pour utiliser cette expression-là, mais qui reçoit la révélation du salut en Jésus-Christ et qui va au paradis, est plus intelligent que l'intellectuel qui a lu tous les livres du monde, mais qui n'a pas eu la révélation du mystère qui nous attend dans l'éternité. Et donc cet homme n'est pas intelligent du point de vue de Dieu, parce qu'il n'a pas reçu la révélation. Et nous, on a besoin, pour devenir intelligent dans ce monde difficile, d'avoir de plus en plus de révélations. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est dit que la parole de Dieu éclaire le simple. Vous voyez, c'est qu'il y a une lumière sur notre sentier. Donc vous pouvez être très intelligent, mais si vous marchez dans les ténèbres, vous vous cassez la figure. Même si vous pouvez expliquer ce que c'est qu'une pierre, une cheville, un pied, un orteil, qu'est-ce que c'est qu'un blessé. Vous pouvez tout expliquer, mais vous tombez quand même parce que vous ne voyez pas. Le simple, lui, ne peut pas expliquer tout ça, mais il voit une pierre parce qu'il est éclairé et il peut contourner l'obstacle. Donc il est intelligent. Et nous, c'est la même chose. Et donc on se rassemble pour écouter la parole de Dieu, pour avoir du discernement. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, c'est ce que je viens de dire, l'Église n'était pas connue avant, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, vous remarquerez, c'est une parenthèse, hein, ça renforce le passage d'Éphésiens où il est dit que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes, et après, elle est édifiée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'apôtres et de prophètes dans ce sens-là aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que la révélation de la parole de Dieu écrite. Donc aujourd'hui, c'est les pasteurs et les évangélistes qui bâtissent par Jésus-Christ l'Église. Mais le fondement, c'était les apôtres et les prophètes. Et là, c'est ce qu'il vient de dire. Il dit, ça a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Pas aux pasteurs, ni aux évangélistes, ni à des anciens, etc. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce. Donc c'est surtout versets 7 et 8 après qu'on verra qui sont ces deux versets qui sont importants ce matin, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Encore une fois, Paul aurait pu être comme un Jonas. Paul aurait pu refuser cette éventualité. Il aurait pu se convertir comme Jonas était croyant. Mais une fois qu'il a rencontré le Seigneur, après avoir rencontré le Seigneur, il aurait très bien pu dire « Ah bon, prêcher aux gentils ? Non, aux juifs. » Et regarde dans l'Ancien Testament toutes les promesses faites à Daniel, à Ézéchiel, Jérémie, Ésaïe, etc. Non, je vais prêcher qu'à Israël. En plus, toi-même, tu as dit aux disciples, n'allez prêcher qu'aux brebis de la maison d'Israël au début des évangiles. Donc lui aussi aurait pu être un Jonas. Mais Paul a reçu la révélation. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Dieu lui révèle son plan. D'accord. Alors bien entendu, il a pu, avec sa connaissance de l'Ancien Testament, faire des corrélations quand même, hein, avec ce que Dieu lui enseignait. Mais ça, c'est le point important, c'est que il était pharisien comme Jonas, d'une certaine manière, mais Paul, lui, a accepté de changer ses pensées contre celles de Dieu. Et ça, c'est la clé. Il faut changer notre façon de penser. J'ai une histoire qui me revient dernièrement. Oui, c'est un truc tout bête. C'est un hors sujet, c'est pas, j'en parle pas. Donc, on voit là qu'il est, il a été fait ministre. Je vous avais dit hier soir que c'est diakonos, c'est-à-dire un serviteur en activité pour toute chose et à vie. C'est-à-dire que c'est, on, une fois qu'on est devenu chrétien, on est devenu serviteur. D'accord? Serviteur de Dieu. Et donc, comme je disais, servir Dieu, c'est servir les autres. Donc, on est devenu serviteur, mais à vie. Alors, il y a différents moyens de servir, bien entendu. Après, il est dit que c'est selon le don de la grâce de Dieu. Et donc, c'est le don, c'est un charisme, d'où le mot charismatique, et ça signifie une faveur. Mais cette faveur, concernant Paul, elle est particulière. C'est d'annoncer l'évangile aux autres, c'est-à-dire que c'est une grâce de servir les autres. Et ça, c'est un point important aussi. C'est que souvent, quand les gens... Vous savez, ils se posent des questions ou ils se disputent à savoir quels sont les dons, etc. Et au lieu d'avoir une recherche spirituelle qui est de dire « mais quels sont mes dons pour que je bénisse les autres ?» Non, c'est « quels sont mes dons pour que je me mette en valeur, parfois ?» Tu vois, des fois, pour avoir une identité un peu améliorée, tu vois, une justification, comme si les dons justifiaient la spiritualité, alors qu'on vient de voir que non. Jonas était prophète, il avait reçu un appel, un don de Dieu aussi, et il n'était pas spirituel pour autant. D'accord? Donc, les dons, à partir du moment où c'est un don, c'est pas lié à notre, spiritualité. C'est Dieu qui décide. Après, notre spiritualité, c'est de mettre en action nos dons. C'est comme quelqu'un qui est bon en sport, dans un sport, c'est un don qu'il a au départ, et après il va faire fructifier ce don par l'entraînement, etc. Et Paul, donc, a réalisé ça. Et nous, quand on cherche notre place dans le corps de Christ, ayons cet angle-là, c'est pas exactement « qu'est-ce que je suis ?» c'est « qu'est-ce que je peux être pour les autres ?» Qu'est-ce que je peux faire pour les autres ? Et c'est de cette manière-là qu'on aura plus de facilité à trouver nos dons, parce que ça plaît à Dieu, cette attitude-là. Et aussi, ça nous donne, ça nous ouvre un champ de possibilités, parce qu'à partir du moment où c'est pour aider les autres, on voit les portes qui s'ouvrent. Alors que si on recherche un don ou quelque chose qui nous plaît, nous, on a des œillères, d'une certaine façon. Donc ça, c'est un point très important. Ensuite, il est dit... J'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. Là, l'efficacité de sa puissance, pensez à ça, c'est que c'est quelque chose, la puissance de Dieu, par exemple, Paul reçoit un appel. C'est un appel efficace, sinon Dieu ne l'appellerait pas. Mais pour qu'il soit efficace, il faut que Dieu agisse. Et c'est pour ça qu'il est dit l'efficacité de sa puissance. C'est-à-dire que Dieu nous donnera tout ce qu'il faut pour accomplir cet appel. Ça vient pas de nous. On doit s'appuyer sur l'efficacité de sa puissance. Alors, que ça soit dans le domaine, je prends le cas d'un prédicateur, est-ce que je suis capable d'étudier, de mémoriser, d'enseigner, d'avoir une clarté d'esprit, etc. Ça, c'est une chose. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi tout ce qui entoure le ministère de la prédication. Du pastorat, ou de l'ancienat, ou d'être missionnaire, etc. C'est comment ça va être possible? Est-ce que j'aurai le temps? Est-ce que j'aurai les finances? Quelle vie de famille je vais avoir? C'est ça l'efficacité de sa puissance aussi. C'est pas uniquement le don en lui-même, c'est l'accomplissement du don. Moi, je sais que pour ma part, Dieu m'a montré que j'allais être un jour serviteur à plein temps, heureusement, je me suis pas trop posé la question à ce niveau-là. J'étais un peu candide, pas naïf, mais candide, je venais de me convertir, ça me tombe dessus. Mais quand on y réfléchit, tu gagnes un peu plus que le SMIC. Oui, je gagnais deux fois plus que le SMIC à l'époque, mais j'avais arrêté l'école à 17 ans, Et un jour, tu seras à plein temps pour Dieu. Comment ça va se faire? Tu vas vivre comment? J'avais pas la réponse, mais je savais que Dieu m'avait appelé. Je pouvais pas mentir. Je savais. Et pour ça, c'est important d'avoir une révélation, parce que si vous êtes subjectif et que c'est pas l'appel de Dieu, comment ça va se faire? Soit par l'énergie de la chair, soit ça se fera pas. D'accord? Donc, on a intérêt à bien écouter. Mais moi, j'étais sûr que c'était Dieu qui m'avait parlé, que c'était le Saint-Esprit qui m'a communiqué ça. Donc, à l'époque, j'avais à la limite, dans ma candeur, une bonne réaction. Je me suis pas posé de questions sur la manière dont ça allait s'accomplir. Je savais que, de toute façon, ça allait pas s'accomplir le lendemain. J'allais pas être pasteur du jour au lendemain, ou prédicateur, ou à la limite, j'avais pas la vision pastorale à l'époque. C'était, je me voyais administrateur, aider les gens sur une équipe, missionnaire, je ne savais pas trop. Mais je savais que ce n'était pas dans l'immédiat. La première chose que j'ai fait, bon, je dois avouer, je ne l'ai pas fait dans la durée. Parce que j'étais tellement naïf, je ne connaissais rien. Moi, je vois une église d'Américains. Ils avaient passé, lors du deux ou troisième culte, un témoignage de deux Françaises qui faisaient leurs études à Lenox. Et qui disaient, ouais, on prend des cours et tout. Donc, je me suis dit, ah, bah, tiens, bah, je vais faire un institut biblique à Lenox. Ouais, tout bête, moi. Hein, je veux dire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé une prof d'anglais pour prendre des cours à Montpellier, des cours d'anglais. C'est-à-dire, et je vous dis, je crois que j'ai dû faire 5 cours, je n'ai pas persévéré là-dedans. Mais, j'avoue. Mais la deuxième étape, c'était, alors je me rappelle, je dis ça à mon pasteur, vous savez, il m'avait invité chez lui, j'étais nouveau converti, il faisait des pâtes, il tournait la gamelle comme ça, et puis je lui dis, tu sais, je vais aller à Baltimore, je fais un site public et tout, il fait, oui, on en parlera plus tard. Je suis jamais allé, en fait, à Baltimore. Mais, en fait, j'ai fait l'Institut biblique à Nîmes. Mais si vous voulez, dès que j'ai entendu parler qu'il y avait des cours à Nîmes, c'était évident que j'allais prendre des cours. D'abord parce que j'avais une soif de connaître la Bible, c'était ma motivation principale, mais je sais que ça participait à un objectif à moyen ou long terme, que ça allait pas se faire par l'opération du Saint-Esprit, pour le coup. Et donc, mais si vous voulez, c'est... Et je suis encore là et je suis vivant. C'est-à-dire que ça s'est fait. L'efficacité de sa puissance. C'est quand on réalise, je veux dire, c'est... Tu sais, t'arrives, toi, commencer l'église à Paris. Mais comment ça va se faire? Ben, ça se fait, l'efficacité de sa puissance. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, c'est pas difficile. Et c'est vrai que c'est pas difficile. C'est un peu comme si vous avez quelqu'un qui est un peintre, je parle d'un artiste, c'est difficile ce qu'il fait, ça prend du temps, mais quand il est doué, en même temps c'est pas difficile, c'est que ça lui plaît. Donc c'est du travail, ça prend du temps, le gars il reste pas dans son lit, il travaille, mais c'est pas difficile pour lui, alors que pour moi c'est impossible. Ben, avec la puissance de Dieu c'est la même chose, c'est que Dieu nous donne des dons. Et avec le don, il y a l'efficacité de sa puissance, pour que le don puisse s'exprimer. Sinon Dieu serait injuste en disant, toi tu as un don pour être chantre et louer Dieu et conduire le peuple dans la louange, mais il n'amènera jamais les opportunités pour que tu puisses chanter. Ça n'a pas de sens, d'accord? Ce serait frustrant. C'est-à-dire que Dieu ouvre des portes à un moment donné, on ne sait pas quand. Mais il va ouvrir les portes, à condition que ce soit Dieu qui nous ait parlé. Et c'est là où on parle de l'unité. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on est là pour servir les autres. Qui va être le révélateur de nos dons? Ceux que l'on sert. Moi, je trouve ça extraordinaire de voir qu'il y a des gens qui disent « j'ai le don de ». Mais où le corps est béni? Alors peut-être que tu n'as pas eu l'opportunité de servir le corps, donc ça, c'est pas ta faute. Mais à l'Institut biblique, on a eu des cas comme ça, des gens, des hommes qui disaient « bon, un homme peut être pasteur et tout, moi j'ai envie d'être pasteur », ils suivaient les cours à l'Institut biblique et tout. Mais honnêtement, alors vous savez, dans les chambrées, des fois, ou dans les salles à place à manger, on rentrait des cours et on parlait théologie, enfin voilà, on partageait, on était des étudiants. Mais il y en a, quand ils parlaient, vous regardiez la montre, hein. C'est quand est-ce que ça va s'arrêter? Il n'y avait pas l'onction, il parlait pour ne rien dire, on sentait une forme d'orgueil, certes, il n'y avait pas la vie de Dieu. Et quand on leur a demandé commencer de partager tout, il était évident qu'ils n'avaient pas le charisme. Le corps n'était pas béni. Donc, on ne peut pas dire qu'on a... C'est comme si un chantre se met sur la scène avec plein de musiciens, et dès qu'il ouvre la bouche devant le micro, il chante faux, c'est horrible, mais Dieu m'appelle à être chantre. Ça n'a pas de sens, le corps n'est pas béni. Donc, le corps est un baromètre de ce qui se passe. Vous voyez? Donc, Dieu va faire... Il y a l'efficacité de sa puissance. Je prends l'exemple que je connais mieux, celui de prêcher. Ça paraît bizarre, même encore aujourd'hui. Maintenant que je parle, je tremble. Mais j'ai des gens qui m'écoutent. C'est quand même bizarre. D'accord? Les gens, attendent après vous, se déplacent. On sait qu'un tel prédicateur a fait une conférence. Ouais, on va y aller. Ce prédicateur, qui il est? Bah, c'est l'efficacité de la puissance de Dieu. Ça bénit le corps de Christ. Pareil pour, cette personne, quand elle chante, je sens qu'il y a la présence de Dieu. Alors, ça, c'est les ministères publics. Puis, il y a tous les ministères qu'on voit pas. Et ça demande beaucoup d'humilité. Parce que, on vous flatte pas, enfin on vient pas vous voir, mais tous ceux qui font la comptabilité, l'administration, je pense à Claudine depuis comme où elle est. Ouais, t'es là. Tu vois, t'es tellement caché que je te vois pas. Non, mais je veux dire, tu fais la compta depuis quoi, 93? Par là? Oui, parce que c'était même avec moi, donc j'étais encore à Uchaud quand j'étais directeur de l'Institut. Mais fidélité, ça fait maintenant, donc 27 ans à s'occuper de la gestion, avec des périodes de finances où c'était pas évident à l'époque. On avait peur du lendemain. Mais la personne bénit le corps, même si le corps ne la voit pas. Vous voyez, c'est ça. Alors que c'est moi, je sais pas quoi, je sais pas comment on appelle, puis Dieu, machin, et moi. Non, fais-toi oublier dans le corps de Christ, laisse le corps de Christ et les dirigeants éventuellement t'élever et sois disponible. Pas, on me demande ça, ah non, moi je pourrais pas. Qu'est-ce que t'en sais? Prouve-moi que tu peux pas. Échoue. Et comme ça, je saurais que tu peux pas. Tu vois? Mais donc, voilà, c'est être disponible. Et puis après, on verra bien. Puis des fois, il y a comme une éventuelle perte de temps pendant 6 mois dans un ministère. Et c'est pas vraiment ça. Mais juste d'être disponible. Je peux vous garantir que Dieu bénit ça. Et de façon corporelle, ça élève l'Église. La plupart des membres vivent ça. Ça fait quelque chose. Dit, ah, vous voyez Jésus-Christ là. Ça lui fait plaisir. Voilà, ça c'est mon Église. Soumission les uns aux autres, disponibilité, croix, sacrifice, on garde notre langue, on croit le meilleur, on ne soupçonne pas le mal, on marche par la foi, on édifie plutôt que détruire, on aime et on pardonne plutôt que de juger. Il ne faut pas plus, hein, pour que le Saint-Esprit se réjouisse et qu'on vive des moments. Je sais, c'est déjà en partie le cas, mais juste... Et ne pas perdre de vue ça. Donc l'efficacité, c'est quelque chose qui produit des résultats, mais sur la durée, c'est-à-dire que le croyant est patient. Lisons, il y a un exemple, par exemple, dans Romains 5. On va lire un passage dans Romains 5. Romains 5, je commence à partir du verset 1. « Est-on donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ ?» à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Ça, c'est un point important, que ça soit pour le salut éternel, mais dans notre vie, on espère dans la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. C'est ça l'efficacité de sa puissance. C'est-à-dire que la puissance, c'est pas uniquement « sois persévérant au nom de Jésus-Christ, amen !» Et on devient persévérant. Qu'est-ce qu'on aimerait que ça soit? On prie « Seigneur, aide-moi à être persévérant. » D'accord, je vais t'aider, tribulation. C'est marqué, hein, ça peut, je ne dis pas que ce sera obligatoirement comme ça, mais nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Vous voulez marcher longtemps avec Dieu? Vous aurez sans doute quelques petits problèmes. Peut-être pas autant qu'eux en ont eu. Hein, faut être honnête, hein, faut pas se comparer à eux à ce niveau-là. Mais je veux dire, Dieu permettra des tribulations, des afflictions, parce que ça produit la persévérance. C'est-à-dire que, au milieu des tribulations dans la chair, quand je dis dans la chair, c'est à la fois le péché, mais aussi la chair physique, hein, l'état naturel dans lequel nous sommes, la puissance de Dieu fait un travail. Parce que s'il n'y avait pas les afflictions, on ne laisserait pas la puissance de Dieu agir. Parce qu'on se débrouillerait nous-mêmes. Mais comme on se débrouillerait nous-mêmes, le jour où il y aurait un problème, plus de persévérance. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, je vais amener des situations où il ne va pas fuir quand même, mais il va être obligé de compter sur moi. Et là, il y a l'efficacité de sa puissance qui agit et on est transformé de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Sache ensuite la persévérance, la victoire dans l'épreuve. C'est intéressant parce que quand on en... le mot victoire, est-ce que c'est un mot qui nous plaît? Ouais. Qui a envie d'être victorieux? Alors là, ils osent pas lever la main, c'est peut-être un piège. D'accord? Bien sûr, mais qui dit victorieux signifie combat, guerre, épreuve, difficile. Sinon, il n'y a pas de victoire. Je veux dire, c'est les spectateurs qui sont sur le côté du ring ou du stade, il n'y a pas de victoire pour eux. Les victoires, c'est pour ceux qui combattent ou qui font une compétition. Donc, on veut être victorieux, mais de quoi? De difficultés. Je veux dire, à un moment donné, il faut mettre un sens sur les mots. D'accord? C'est qu'il y a de l'opposition, il y a la chair, la lutte de la chair et l'esprit, etc. La persévérance, c'est la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance, parce que c'est un peu comme le gars qui aime un sport, qui s'entraîne, il est cadet ou minime, et il a une coupe. Il a remporté une victoire. Il est cadet, il a encore une victoire. Ben, il dit, le moment où je serai senior, j'espère être un jour avoir d'autres coupes et même être champion olympique. C'est-à-dire que les victoires qu'il a dans son adolescence l'amène à espérer dans des victoires futures. Alors que si vous vous inscrivez dans un sport et quand vous êtes minime cadet, vous êtes toujours pratiquement le dernier, il n'y a pas beaucoup d'espoir pour qu'en étant adulte, vous deveniez champion olympique. D'accord? Donc les petites victoires au début de notre vie chrétienne, quand je dis petite, c'est en fonction de nos capacités, produit quoi? L'espérance. En disant, bah voilà, imaginons par exemple... j'aime bien Joseph, moi, parce que sa vie peut être usée de plein de manières. Mais Joseph, il grandit, il est obéissant à son père. Son père lui raconte, un peu comme à l'école du dimanche, il a 5 ans. Et tu sais, notre ancêtre Abraham, l'arrière-grand-père, et puis ton grand-père Isaac, et puis... l'arrière-grand-père Isaac, et puis ton grand-père Jacob. Et puis voilà, on est dépositaire. Non, c'est le grand-père, les deux pères. Et Jacob dit à Joseph, voilà, on va hériter d'une nation et tout ça. Puis Joseph... plus que ses frères peut-être, croit et tout ça, il commence à prier dès son jeune âge, il obtient des victoires dans les domaines de la vie, peut-être que ses frères sont déjà contre lui, mais bon. Et du coup, bah, Dieu voit ça, la capacité de Joseph augmente, hein, Joseph commence à interpréter les rêves. Waouh, une victoire, d'accord? Et puis là, une épreuve, ses frères se retournent contre lui, il risque de mourir là. Seigneur, tu m'as donné une vision, qu'est-ce qui va se passer? Puis le Seigneur le sauve de la mort, en le mettant dans un puits. Puis après, je vais peut-être mourir là, à petit feu dans ce puits. Puis là, il y a une caravane qui passe, il est vendu. Peut-être que pour lui, c'était quand même un espoir, cette caravane. Parce que il savait que les frères n'allaient pas revenir vers son père en disant « Papa, on a fait une bêtise. » Face au père, donc il savait, peut-être que c'était un bien la vie. Et puis après, il est vendu comme... il est là sur le marché aux esclaves. Voilà... une épreuve. J'intercède, Seigneur, voilà, ma vie est entre tes mains. Et puis il y a Potiphar qui arrive. Et puis là, Potiphar discerne que Joseph est quelqu'un de bien. Et Potiphar l'élève. Waouh, une autre victoire. Et je sais qu'un jour tu m'as donné un rêve, les gerbes et tout ça. Donc cette victoire-là me fait espérer qu'un jour les gerbes s'élèvent dans ma vie. Tout comme nous, on espère dans la résurrection, on espère dans plein de choses. Et puis, après, une tribulation, une accusation mensongère, on est en prison. Oui, ça produit la persévérance, la puissance efficace de Dieu dans la vie de Joseph. Et là, le geôlier voit ça, et lui donne les clés de la prison, presque. C'est lui qui gère la prison. Et puis après, les deux co-prisonniers avec lui ont des rêves. Et l'onction de Dieu est toujours sur lui, il interprète les rêves. Et toi, n'oublie pas, hein, parce que toi, je te demande pas, tu vas mourir, mais l'autre, quand tu vas t'en sortir, ne m'oublie pas. Et puis, il va être oublié. Mais une autre épreuve. Et puis après, vous savez, il va devenir ce qu'il va devenir. C'est-à-dire que tout ça, c'est l'efficacité de la puissance de Dieu, et c'est pas parce qu'il y avait des épreuves qu'il n'y avait pas la puissance de Dieu. Mais l'efficacité de cette puissance engendrait de la persévérance dans la vie de Joseph. Et nous, on pense que la puissance de Dieu, l'appel, si je suis dans la volonté de Dieu, je vais soulever les chaises, je vais dire, à distance, j'allume la lumière. Vous voyez, c'est ça qu'on aimerait, toi, la puissance de Dieu. Non, la puissance de Dieu, c'est qu'il est capable de changer quelqu'un comme moi. Je peux vous garantir, il faut qu'il soit puissant. Hein. Garantir. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est une puissance où ma volonté même va y participer. Et ça, faut le faire. C'est qu'on va œuvrer ensemble. Or, l'espérance ne trompe point, et regardez ça, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. C'est-à-dire que on vit tout ça parce qu'il y a l'amour qui est répandu. Joseph, il pensait au fait qu'un jour, il allait sauver sa tribu. Jésus, il pensait qu'il allait sauver le monde. D'accord? Paul pensait au salut des âmes. Nous, d'une manière plus réduite, mais on pense à l'amour des saints. Comme on aime les gens, on est là pour servir les gens. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Et ça, ça produit de l'unité. Ça produit de l'unité avec une même vision. Et Jonas, lui, n'était pas uni à Dieu et ne cherchait pas à unir les païens et les juifs. Paul a accepté ça, que juifs et païens puissent être unis. Vous voyez comment ça fonctionne ? Alors que nous, on recherche l'unité en nous-mêmes uniquement. Vous savez, soit on se sacrifie, soit on sacrifie les autres. Il n'y a pas de mesure. Soit on se sacrifie, soit on sacrifie les autres. Et c'est dans... Alors, on vit dans la grâce, je ne reprenais pas ça, n'ayez pas une chape sur les épaules, mais en gros, il faut ranger les chaises. Si Dieu me le demande et je n'obéis pas, c'est quelqu'un d'autre qui le fera. Je sacrifie quelqu'un d'autre. Ça commence là. Dans le couple, dans les familles, dans les relations fraternelles, dans l'Église, c'est... ça ne veut pas dire que je dois tout faire. Et c'est là où il y a... Parce que sinon, ça, c'est une autre loi. Ça s'appelle la loi de la carpette. Ou de la serpillière. C'est en gros, c'est moi qui fais tout. D'accord ? Tout faire, c'est pas aimer les autres. Pourquoi ? Parce que je prive les autres de rentrer dans leur appel et dans leur don. Parce que moi, je me sens tellement coupable que je crois que c'est moi qui peux toujours dire oui. D'accord ? Ben non, parce que je prive les autres d'une bénédiction. C'est pour ça qu'on a besoin d'une révélation, d'écouter la voix de Dieu. Qu'est-ce qui m'est demandé ? Alors, on tâtonne, hein, on apprend, c'est pas. Mais c'est ça l'idée, puisque je peux pas dire que d'un côté il y a une complémentarité, et d'un autre côté dire, c'est moi qui dois tout faire, parce que faut servir Dieu, alors je sers. Donc, il y a un volontaire, moi. Qui peut emmener quelqu'un à l'aéroport? Moi. Qui peut faire ménage? Moi. Mais ces gens-là, ils sont toujours frustrés. Parce qu'ils en feront jamais assez, en réalité. Non, c'est, quand dans Corinthiens, il dit que le Saint-Esprit donne à l'un un don de service, il te donne à toi pour solutionner un problème maintenant, et dans une heure, ça va être un don de service à la personne là-bas. Et c'est le corps de Christ qui travaille comme ça. Et c'est comme ça qu'il y a une harmonie et que tout le monde rentre dans son don, que ça soit un don durable, permanent, ou des dons ponctuels. D'accord ? C'est pour ça qu'un pasteur a le droit de ranger les chaises aussi. Parce que le Saint-Esprit peut lui dire « don de service maintenant ». Tout pasteur que tu es. Ensuite, il dit donc, l'amour répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, voyez, tout ça, c'est lié, en fait. Ça paraît être des doctrines séparées, mais on voit qu'il y a comme un maillage qui se fait et une cohérence, quelque part. Donc, l'efficacité, c'est quelque chose qui produit des résultats pendant la patience des chrétiens. Et donc, ça produit... l'effet de sa grâce, c'est-à-dire qu'on voit la grâce de Dieu agir. Souvent, on pense que la grâce de Dieu doit être immédiate. Alors que la grâce peut mûrir, fleurir des années après. Mais ce sera une grâce quand même. Vous voyez ? Je peux commander un cadeau à Noël prochain, mais je peux l'avoir dans 5 ans. Dans les deux cas, c'est un cadeau. Mais ça viendra au bon moment. Et c'est le point qui est intéressant. Alors lui, il en parle de façon générale par rapport au plan de l'Église, mais nous, c'est la même chose, c'est que il est dit au verset 6, le mystère que les païens sont co-héritiers forment un même corps et participent à la même promesse. C'est-à-dire que tout ce que je viens de dire et d'écrire, c'est lié à des promesses de Dieu que l'on reçoit. C'est toujours la révélation. C'est que Dieu nous fait des promesses. Par exemple, je ne t'abandonnerai jamais, et que si Dieu m'appelle, il accomplira ses desseins dans ma vie. D'accord ? Celui qui a commencé une œuvre l'achèvera jusqu'à la fin. Donc ce sont ces promesses-là, que ce soit des promesses générales ou des promesses particulières pour notre vie, qui nous permettent de patienter. Si on ne reçoit pas de promesses et de révélations, l'ordre de Dieu va devenir une loi. Et à un moment donné, si ça ne correspond pas au tempérament de notre chair ou à la période, à la saison qu'on vit, on va dire non. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de promesse, en fait, qui s'attache à l'appel. Or, quand il y a l'appel, il y a toujours une promesse. Ensuite, ce qui nous empêche de vivre la puissance de Dieu, et ce qui peut être aussi, sans doute même, empêchait Jonas de croire que les Ninivites, non seulement méritaient peut-être pas d'être convertis, mais c'était possible, c'est de croire dans la puissance de Dieu en action, si tu veux. C'est que si je ne comprends pas que ce qui m'est demandé, c'est par grâce, je n'expérimenterai pas la puissance de Dieu. quand je disais que parfois il y a des gens qui, où j'en parlais hier, ah ben non, je peux pas, quand je demandais, vous savez, à des gens de prêcher, des fois faire, ah ben non, pas maintenant, c'est qu'ils doutent de la puissance de Dieu dans leur vie. Donc comme ils voient pas la puissance de Dieu dans leur vie, ils se privent d'une grâce. Et il y a le cercle vicieux, et ce qui fait qu'ils rentrent dans un sentiment d'échec permanent, où ils ne laissent, il n'y a plus la foi qui permet à Dieu de se manifester dans leur vie. Je donne souvent cet exemple, alors c'est valable, alors là pour les prédicateurs, c'est difficile pour eux d'y échapper, on peut s'y échapper, mais c'est difficile parce que ça se voit. Mais j'ai tendance à dire souvent, est-ce que vous pensez qu'un pasteur qui prêche n'importe quelle église, en général c'est tous les dimanches. Ça peut être plusieurs fois par semaine, mais à minima, quoique non, je connais des églises où le pasteur prêche une fois par mois et les autres c'est les anciens qui tournent ou les invités. Ça j'ai du mal à comprendre, mais normalement c'est une fois par semaine. Est-ce que vous pensez que le pasteur est réglé comme du papier à musique, que le dimanche matin, quand il se lève, il est spirituel et prêt à prêcher? Non. D'ailleurs, on n'est pas des mécaniques. Donc, le Saint-Esprit, c'est pas du kérosène non plus. Donc, ce que je veux dire, c'est que, est-ce que je vais me lever le matin et dire, ah ben non, je le sens pas aujourd'hui, je prêche pas. Hein, faut être honnête, faut être transparent devant Dieu, faut pas être hypocrite. Donc, voilà, je passe un coup de fil, je reste à la maison. Vous connaissez la blague du pasteur golfeur? Il y en a qui la connaît pas. Ok, alors j'y vais. Donc c'est un pasteur qui vit dans la chair, il sait pas quoi prêcher dimanche matin. Et il aime le golf, c'est un amoureux du golf. Il dit, bon, bah là, ce coup-là, je vais me faire un petit peu des vacances. Il appelle la veille un de ses anciens, il dit, voilà, je pas bien et tout, il a un petit coup de mou, là, je vais me reposer demain, tu peux me remplacer. Oui, pas de problème et tout, je prierai pour toi, etc., etc. Puis dimanche matin, le pasteur, bien en forme, se lève et prend, je sais pas comment ça s'appelle. Comment?
Son caddie.
Son caddie, voilà. Pas pour aller au supermarché, mais pour aller golf. Et il arrive, et là, il commence à jouer, tout direct dans le trou. Il continue, fait un parcours du tonnerre. Il a jamais joué comme ça. Et là, t'as les anges qui regardent. Et ils disent, mais c'est pas possible. Il ment, il est dans la chair, il devrait prêcher. Et là, qu'est-ce que Dieu fait pour qu'il réussisse comme ça? Puis au bout d'un moment, il réussit tellement sa partie, il monte au ciel. Et puis, mais je comprends pas, Seigneur, voilà, tu sais très bien, toi qui sais toute chose. Voilà, il désobéit dans son appel et tout, et tu le laisses gagner. Et Dieu dit oui, parce qu'il pourra le dire à personne, le parcours qu'il a fait. Voilà. Donc, je continue la blague, là je rajoute. Hein. C'est qu'au lieu que la puissance de Dieu se manifeste au pupitre, la puissance de Dieu s'est manifestée dans le parcours de golf. Mais ça n'a pas été pour son bien-être. D'accord ? Donc, tout ça pour vous dire, c'est que c'est justement dans des moments comme ça où peut-être on ne le sent pas, on y va par la foi, on s'attend à Dieu, on dit « Seigneur, tu sais. Hein. » Et là, d'un seul coup, vous voyez, ça coule. Il y a la puissance de Dieu quand même. Parce que ça ne dépend pas de celui qui est appelé, ça dépend de celui qui appelle. Et là, je parle pas d'hypocrisie, enfin, c'est de vivre dans le péché et puis de faire n'importe quoi. Je parle pas de ça. Je parle que simplement, on est ce qu'on est, des êtres faibles. Donc, on n'est pas comme ça au top tous les dimanches matins. D'accord? Et on se dit pas non plus, bon, pendant 6 jours, je peux être dans la chair parce que dimanche, faut que je sois en forme. D'accord? Je me repentirai dimanche matin pour pouvoir prêcher. Non, c'est on marche par la foi. Un missionnaire qui est à l'autre bout du monde, il y a des fois, il a envie de rentrer chez lui. Vous savez, il y a des moments dans la culture, je ne sais pas si lui, ça lui est arrivé, ça arrive à tout le monde. On n'en peut plus de la culture dans laquelle on est. Bah oui, c'est vrai, je sais bien. C'est qu'on a envie de rentrer chez soi, la manière de parler, de comprendre les choses, d'appréhender la vie. Et là, t'es toujours décalé par rapport aux autres. Au bout d'un moment, t'en as marre, c'est humain. Bon, ben, on ne va pas rentrer pour autant. Ben voilà, on se pose la question. Mais on passe cette étape et puis on s'aperçoit que Dieu fait un travail dans notre vie. Vous voyez ? Donc, mais on voit l'efficacité de la puissance de Dieu sur le long terme, la persévérance. Et qu'est-ce qui permet à Dieu aussi de manifester sa puissance dans notre vie ? C'est qu'on a un but. C'est-à-dire que, je l'avais dit, hein, sans vision, le peuple dépérit. Mais si vous voulez, il y a Dieu qui a un but. C'est pas le nôtre, hein, le but. C'est le but de Dieu. Et ce qui est intéressant, si je fais une équation avec, pour résumer tout ce que j'ai dit, il y a la promesse de Dieu qui permet à la puissance de Dieu de s'exercer, Et une fois que cette puissance agit, on s'aperçoit qu'il y a toujours la provision, que Dieu est fidèle, si vous voulez. Et on expérimente différentes facettes du caractère de Dieu. Et tout ça, ça produit non seulement dans notre vie, mais dans la vie des autres, un don de grâce et une œuvre efficace. C'est-à-dire que c'est comme ça que Dieu bâtit son Église. On ne peut pas dire que c'est Jésus-Christ qui bâtit son Église et chercher nous-mêmes à construire les choses. Donc Dieu ne partagera pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Donc il va nous vider de plus possible de toute substance naturelle pour qu'il bâtisse lui-même son Église au travers de nous. Donc j'ai les promesses, ah oui mais moi je suis incapable. Bah oui mais rien n'est impossible à Dieu. Donc c'est possible, parce qu'il y a une promesse. J'y crois, la puissance de Dieu agit. Et comme elle agit, je m'aperçois que Dieu a toujours été fidèle, qu'il y a une provision dans ma vie. Et ça m'amène, du coup, à exercer la grâce chez les autres. Un autre exemple, je vous parlais hier, vous savez, quand on conseille les gens, on écoute des choses, on n'est pas tous aptes à entendre certaines choses, mais aussi dans la façon de conseiller. Je vous avais dit aussi que, par la foi, il faut discerner le potentiel dans la vie de la personne qui est en face de vous. Pas uniquement regarder à ce qu'elle a fait et dire voilà, faut changer, faut faire ci, faut faire ça, dire voilà, il y a une autre vie qui est possible. Ben oui, mais quand vous voyez l'état de la personne, il y a des doutes quand même. Ben oui, mais il y a les Écritures. Vous savez que Dieu a un appel sur cette personne-là, même si vous ne le voyez pas, cet appel. Donc qu'est-ce qu'il faut? C'est donner une espérance à cette personne-là. Comment vous lui donnez une espérance? Par des promesses. Mais les promesses que vous-même, vous avez expérimenté peut-être d'autres promesses, mais quand vous avez expérimenté la fidélité des promesses de Dieu pour votre vie, vous communiquez les promesses. Mais celui qui t'est appelé fidèle, t'es un enfant de Dieu, peu importe ton état, etc., il faut peut-être changer les couches, mais t'es un enfant de Dieu. Et à partir de là, vous faites des promesses, les promesses de Dieu à la personne. Qu'est-ce qui se passe? Elle commence à croire, et la puissance de Dieu dans la vie de cette personne commence à agir. Et qu'est-ce que ça produit? Cette personne expérimente la grâce de Dieu parce qu'elle ne méritait pas que cette puissance agisse. Et donc, en fait, il faut être pour les gens un visionnaire. Il faut avoir une vision pour les gens. Non seulement vous devez avoir une vision pour vous-même, mais vous devez avoir une vision pour les gens. Et c'est comme ça que la puissance de Dieu commence à impacter la vie des autres. Et ça produit une grâce et donc une œuvre efficace. Et quelques années après, même avant peut-être, vous êtes une personne qui sert le Seigneur et vous n'avez pas idée de ce qu'elle avait pu faire avant. Dieu l'a bien fait avec Marie de Magdala, que je sache. Il l'a fait sans doute avec la femme adultère. Il l'a fait avec la femme au puits. Il l'a fait avec Zachée. Il l'a fait avec Pierre alors qu'il l'avait trahi. Et c'est l'efficacité de la puissance de Dieu dans notre vie. Mais tout ça parce que ça a été communiqué par la parole. Va et ne pêche plus. Zachée, c'était la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il devait la connaître parce qu'il dit « je vais rembourser les gens », etc. Donc il savait ce que la loi demandait. La femme adultère, elle savait très bien où elle en était. Donc moi, je ne te condamne pas non plus. Je crois dans cette promesse. Je crois que tu ne me condamnes pas. Et donc la grâce nous pousse à renoncer à l'impiété. Et la vie de cette femme est changée. Et donc, qu'est-ce que ça produit? De l'unité. Le jugement met un mur de séparation. Le pardon amène l'unité, le rassemblement. C'est intéressant, on appelle nos églises parfois un rassemblement. Mais c'est ça en fait, c'est un rassemblement. Ensuite, si ce n'est pas une œuvre de grâce, évidemment c'est une œuvre dans la chair. Éphésiens 3, 8, donc verset suivant, verset 8. « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Là, c'est intéressant parce que si on prend une partie du verset, « Moi qui suis le moindre de tous les saints », ça pourrait être un petit peu de la fausse humilité, la pitié de soi, « Oh, moi, je suis nul et tout ça, les autres peuvent le faire, non, non, moi... » Et honnêtement, Paul avait de quoi le dire d'une certaine manière, lui qui avait persécuté les saints, etc. Mais là, c'est pas de la fausse humilité qui est en fait de l'orgueil. La fausse humilité, c'est de l'orgueil. C'est de la vraie humilité. C'est-à-dire que la vraie humilité, c'est pas avoir une opinion trop haute de soi, et en même temps, ne pas rester passif devant son état. C'est que je m'appuie sur Dieu. Si Dieu il m'appelle, je sais que je suis moindre de tous les saints, mais s'il m'appelle, bah, c'est que. Et donc, c'est pour ça qu'il rajoute, cette grâce a été accordée. C'est-à-dire qu'il est le moindre des autres saints, mais il a reçu une grâce. Donc, il faut la prendre. C'est aussi simple que ça. Imaginons que vous ayez une personne qui qui travaille un petit peu, je sais pas moi, elle travaille 10 heures par mois, elle a pas beaucoup d'argent pour manger, mais il y a un peu d'argent. Donc cette personne mange, mais pas forcément à sa faim. Et puis l'autre, qui travaille pas du tout. Donc lui, il a vraiment faim. Et vous donnez la nourriture à ces deux personnes. Il y en a une qui a moins faim que l'autre, mais elle est quand même frustrée. Mais si elle voit la vie de telle façon qu'elle est amenée à se dire « Ben non, je n'ai pas travaillé pour manger ça, je le refuse. » Elle se prive d'une grâce. Ben évidemment, elle produit, elle subvient ses besoins en partie par ses œuvres, mais elle se prive d'une grâce. Puis vous avez l'autre qui est moindre. Lui ne travaille pas, mais il reçoit cette grâce. Il va être bien nourri. Et bien Paul, c'était le cas. Il était celui qui n'avait rien pour se justifier devant Dieu, mais il a reçu la grâce de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'une grâce, c'est une grâce. Tu me donnes de la nourriture, je prends. Je prends. Je ne la mérite pas, mais j'ai faim, moi. Donc je prends. Ce qui compte, c'est d'être rassasié dans le bon sens du terme, pas d'être égoïste, mais de connaître Dieu. Donc si la grâce me permet de connaître Dieu, si c'est parce qu'un Allah qu'il faut que je reconnaisse Dieu, bah recevons la grâce. C'est pas par la loi que je peux connaître Dieu. C'est pas par mes mérites. C'est pas par l'œuvre de la chair. Je serai jamais rassasié par ce moyen-là. On me dit que c'est par la grâce que je dois connaître Dieu, bah je prends la grâce. Et si vous voulez, c'est pas parce que c'est plus facile. C'est parce qu'il y a un but, c'est de connaître Dieu et sa gloire. Et là où Jonas est passé à côté de son appel, on en parlait, on a eu un temps de questions-réponses ce matin, et on parlait de ça, je ne sais plus quand c'est venu, mais quelqu'un me disait, mais finalement Jonas, il a accompli le plan de Dieu, parce que Nîmes s'est converti. Je dis, oui, il a accompli le plan de Dieu, mais pas le plan de Dieu pour sa vie. Il a accompli le plan de Dieu pour Nîmes, contraint et forcé, mais quel était le plan de Dieu pour Jonas ? Le plan de Dieu pour Jonas, c'était qu'il se réjouisse de la gloire de Dieu et ce qu'il était capable de faire. Jonas ne se réjouit pas. Il est comme le frère aîné, il grince des dents. Et quand dans l'évangile de Luc, Jésus dit « Il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes », eh ben, Ninive qui se convertit, ça devait claquer des ailes au ciel. D'accord ? Mais Jonas ne se réjouit pas, lui, il grince des dents. Il passe à côté de son appel. C'est-à-dire qu'il ne participe pas à la gloire de Dieu. Vous voyez ? Donc il accomplit le plan de Dieu. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de chrétiens, peut-être moi le premier, j'accomplis le plan de Dieu, mais j'accomplis pas le plan de Dieu pour ma vie. Pourquoi ? Parce que je suis pas épanoui dans ce que Dieu fait dans ma vie. Enfin, au travers de ma vie. Et au bout d'un moment, on risque même de tomber, de pécher. Et donc, il dit, à moi qui suis le moins de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens. Donc, vous voyez, Jonas, c'était aux païens, mais non. Lui, Paul voit comme une grâce d'annoncer aux païens. Jonas, c'était le devoir d'annoncer aux païens. Et il voulait pas de ce devoir-là. Il a vu ça comme une loi. Et donc, une grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Et c'est là la clé. Jonas ne comprenait pas la grâce de Dieu, mais la grâce de Dieu était incompréhensible. Là, c'est marqué les richesses incompréhensibles de Christ. D'ailleurs, même ses ennemis, c'était comme ça. Quand il était sur la terre, Jésus, que ce soit les apôtres, ses disciples et les pharisiens, ses ennemis, ils comprenaient pas ce qui se passait. Et en même temps, ils étaient tous attirés par lui, soit pour le piéger, soit parce qu'il réalisait quand même qu'il prêchait bien, soit parce que Pierre disait « Mais tu as les paroles de la vie éternelle ». Et en même temps, c'était incompréhensible. À un moment donné, il y avait le moteur, il serrait là-haut. D'accord ? Je dis souvent, sans l'huile du Saint-Esprit, le moteur, il serre. D'accord ? Il faut l'huile du Saint-Esprit pour qu'on puisse comprendre les richesses incompréhensibles. Est-ce que c'est compréhensible que quelqu'un puisse vous pardonner ? Je parle même pas de Dieu. Je parle de votre proche, là. Est-ce que c'est compréhensible que quelqu'un vous supporte pendant 30 ans ? 40 ans ? Je sais pas. Combien de temps ? 50 ans ? Ouais, voyez donc. Bravo, hein, bravo. Non, ouais. Mais même dans l'église, moi je suis vraiment fier, je le dis, il y a des gens qui sont avec moi depuis des années, et je dis, pétard, c'est une grâce, depuis le début de l'église. C'est ce que Paul appelle les, j'en ai parlé l'autre fois, les soldats, les combattants d'œuvre, ou les compagnons d'œuvre. Vous voyez, des gens qui sont là depuis longtemps. Mais c'est une grâce. C'est pas parce que moi, je suis tellement doué. D'accord ? Non, ça suffit pas. C'est une grâce. Et donc, il faut pas avoir une pensée trop de soi, mais pas une pensée trop basse non plus. Sinon, quand Dieu traite le problème, on réagit. D'accord ? Et ce qui est intéressant, c'est quand on a une opinion trop basse de soi, ça provoque de l'insécurité. Alors que l'amour parfait bannit la crainte. Donc, je sais pas moi, je te demande quelque chose, je sais pas, bah, tu peux aller me chercher la bouteille qui est sur la table là-bas. Oh, j'ai intérêt à réussir, parce que c'est difficile. Là, je vais y aller, tu sais, faut pas prendre une bouteille d'eau de fait. Sans arrêt. Bah, là, il me l'a demandé. Et des fois, avec Dieu, c'est le c'est sacré. Tu sais, et c'est là qu'on tombe. Ouais. Ou alors, parce qu'on a peur de tomber, non, je vais pas la chercher. Insécurité. Mais ça veut dire que tu veux pas être couvert. T'as peur d'être découvert dans tes erreurs, dans tes fautes, etc. T'as peur d'avoir une mauvaise note. Mais moi, je suis tranquille, zéro de conduite. Donc, que je tombe une fois de plus, voilà. Tout est par grâce. Et on avance. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez comment ça... C'est, je vous disais, là aussi, je ne sais plus si c'est en temps de questions-réponses ou... Hier soir, je vous disais que l'église de Paris, pour moi, c'est mon église. Non, c'était avec Eliane, je discutais de ça. C'est-à-dire que je ne suis pas uniquement le pasteur de l'église, je suis un membre de l'église. C'est-à-dire que quand je suis dans l'église, alors je l'ai aussi d'une manière différente, parce que ce n'est pas mon église, mais à Nîmes, on peut l'être quand on se réunit. Mais si vous voulez, on est à la gare, je mange, je suis là, mais je suis dans l'église, j'aime ça. Il ne se passe rien, je ne parle pas, je regarde les gens, comme si j'étais à la plage en train de regarder les passants... en train de boire sur une terrasse, mais ça me nourrit, c'est des gens, j'entends des conversations, un témoignage, prendre une nouvelle, c'est le corps de Christ, ça me nourrit. C'est-à-dire que quand on sert les autres et qu'on a cette vision-là du corps de Christ, elle revient comme une bonne vague en retour. Vous voyez? Et ça amène quoi? L'onction. L'onction, elle n'est pas pour, alors c'est intéressant parce qu'on dit toujours, est-ce que lui a l'onction? Oui, il faut avoir une onction dans le don et l'appel que l'on a. C'est-à-dire qu'il faut le Saint-Esprit qui nous couvre, c'est le Saint-Esprit qui nous appelle. Mais, donc, il faut avoir cette sorte d'onction. Mais l'onction est efficace et à l'œuvre quand, en fait, elle est partagée dans le corps de Christ. Et donc, du coup, Paul est au service des autres. L'onction qu'il a, elle n'est pas que pour lui. Elle est dans le corps de Christ et donc cette onction lui revient. Une fois, je me rappelle, parce que c'était venu faire une conférence à Huchot, c'était la première qu'il a faite, c'est à Huchot, il était venu avant, mais en 92. Et je me rappellerai toujours, c'était un soir, je crois que c'était un vendredi soir, il arrive, il cite un passage dans Corinthiens, et puis il s'arrête d'entrer, d'abord il était très ému de voir l'œuvre de Dieu, les conversions, la salle qui était pleine et tout, et d'un seul coup il fait ça. Et ça doit faire ça sur chacun de nous. C'est-à-dire que moi, j'ai un appel, peu importe les noms, le service, je suis pour le corps de Christ. Ça se répand sur le corps de Christ. C'est un parfum de bonne odeur vers Dieu, et ça descend sur moi, et ça coule, comme ça. Voilà l'unité. Que Dieu vous bénisse.